En ce 22 décembre, j'aimerais vous parler surtout de Jésus. Je vois dans le Devoir d'aujourd'hui l'en-tête d'un article « Que fait-on-nous au juste en ces temps de réjouissance ?» Eh bien, on fête Jésus, évidemment. Mais qui est Jésus ? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre ? Qu'est-ce qu'il a vécu ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Est-il vivant ? Évidemment qu'il l'est, je le crois. Je le crois en compagnie de millions, sinon de milliards de gens qui ont vécu sur cette terre. Je le crois en particulier, vous allez vous surprendre peut-être un peu, avec Sainte Marguerite d'Youville. Pourquoi je parle d'elle? C'est que, en 1771, ici à Montréal, le 9 décembre, elle a été frappée de paralysie. Le 13 du même mois, elle a eu une seconde attaque qui l'a terrassée. Elle a expiré le 23 décembre. Ce sera l'anniversaire demain de son entrée au ciel, de sa naissance. À 70 ans. Et saviez-vous que le soir de sa mort, un monsieur Delille, il y a beaucoup de Delille à Montréal, eh bien, un monsieur Delille qui se promène au bord du fleuve, et même plusieurs citoyens de ce qu'on appelait autrefois le Faubourg Saint-Laurent. C'était évidemment dans le Vieux-Montréal. Ils ont aperçu dans le ciel, au-dessus de l'hôpital général, l'ancien hôpital général, une croix de feu. Ils l'ont vu, ils en ont témoigné. C'est curieux. Mais de toute façon, ce qui est intéressant, c'est sa vie. Elle a modelé sa vie sur Jésus-Christ. Dieu l'avait gratifié, on peut dire, de qualités naturelles assez exceptionnelles. C'était une femme remarquable en tout point. Vous savez qu'elle s'était mariée, qu'elle avait eu un mari difficile, qui est mort jeune. Je vous en ai parlé le jour de sa fête, et nous y reviendrons l'an prochain plus longuement. On consacrera toute une émission à cette grande femme que l'Église a suscitée. Et quand on dit souvent que l'Église a méprisé les femmes, peut-être vrai, d'autant plus que le pape vient de s'en excuser. Mais en même temps, l'Église a favorisé des grandes vocations comme celle de Sainte Marguerite d'Youville. Et tous les contemporains de Marguerite d'Youville, qui a vécu ici, à Ville-Marie, à Montréal, bien tous ces contemporains, ces historiens s'accordent à louer son impeccable bon sens, une solidité de jugement, une énergie indéfectible. Et elle avait une débrouillardise qui était absolument merveilleuse. Des malins diraient qu'elle avait un cerveau d'homme, je n'en crois rien. Elle avait une tête de femme donnée, courageuse, solide. Elle avait des vertus de femme, des vertus de don d'elle-même, qui est si difficile, c'est si difficile aux hommes de se donner comme ça. Les hommes prennent, mais les femmes donnent. Oh, il y a des gens qui diront que je diminue la femme en parlant ainsi de la femme. Mais non, au contraire. Et ces vertus de femme ont été sublimées dans la foi et dans une vie intérieure ardente, une vie intérieure avec Jésus-Christ en elle. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire, est venu nous libérer. Libérer les femmes comme les hommes de leur égoïsme ou de leur tendance à s'occuper de petites niaiseries. Mère d'Youville, d'accord, a eu des dévotions particulières comme celle du Sacré-Cœur au Sacré-Cœur, à la Sainte-Croix aussi, à la Sainte Vierge, à Saint Joseph, même aux anges, et même à Saint Charles, hein? Saint Charles Borromée, évidemment. Mais on sait qu'elle avait une dévotion centrale dans sa vie. Et quelle était-elle? Le savez-vous? C'est extraordinaire, elle est comme Jésus-Christ. Car sa dévotion, mais on n'appelle plus ça une dévotion, c'est beaucoup plus qu'une dévotion, c'est au Père éternel. Ça dérivait en droite ligne du Notre Père, de cette révélation justement que Jésus-Christ nous a apportée. Il a substitué ce Dieu d'amour à ce Dieu qui est trop froid et trop lointain, que l'on retrouve malheureusement, j'ai l'impression, dans une grande partie de la façon de croire, particulièrement des Juifs, nos ancêtres dans la foi, des musulmans qui nous ont succédé relativement dans certains pays à partir du 7e siècle. Car Jésus nous parle du Père d'une façon différente, de Dieu d'une façon différente. Nous sommes aimés, des enfants aimés et chéris presque à la folie. Il suffit de lire d'ailleurs la parabole de l'enfant prodigue où l'on voit le père de l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'un enfant prodigue? Vous savez, c'est un enfant dépensier. On sait ça aujourd'hui, les parents connaissent ça. Mais c'était un enfant comme ça que Jésus imagine dans cette parabole, dans ce conte, dans cette histoire merveilleuse où Jésus veut nous faire comprendre que nous, qui sommes tous au fond des enfants prodigues, des enfants dépensiers, des vertus que Dieu veut nous donner, des grâces que Dieu veut nous donner, des dons que Dieu nous donne, nous dépensons ça n'importe comment. Nous allons, comme l'enfant prodigue, traîner ça dans les villes, les endroits stupides. Nous ne sommes pas conscients. Mais Dieu ne nous juge pas tellement comme coupables. Il pleure sur notre faiblesse. Et dans la parabole, l'enfant prodigue, le père va constamment à la recherche de son fils. Il regarde dans la vallée si son fils s'en vient. Et quand il le voit, qu'est-ce qu'il fait? Il court vers lui, il le serre dans ses bras. Et le fils a même pas le temps de demander pardon, qu'il est déjà dans les bras de son père. Il a suffi qu'il fasse une démarche vers son père, même une démarche qui n'est pas parfaite, une démarche qui vient plutôt du désir de bien manger dans la maison de son père, de retrouver la paix dans la maison de son père. C'est un peu égoïste, mais il retrouve tout à coup dans l'amour que son père lui porte, un amour grandissant et il aimera son père. Et c'est ainsi que nous qui sommes pardonnés, nous sommes chéris à la folie, aimés à la folie, ainsi nous pouvons, c'est Jésus qui nous l'enseigne, nous pouvons grandir et vivre libérés. C'est un privilège tout spécial que Sainte Marguerite Bourgeois a reçu. Elle a reçu l'esprit de l'adoption des enfants, par lequel, comme dit la Bible, nous crions « Abba, Pater », c'est-à-dire « Papa ». Dieu est un papa. Ça a l'air quétaine quand on dit ça, mais c'est pas quétaine, c'est archi-profond, c'est dévastateur jusqu'au fond du cœur. Dieu est un papa. Il nous aime. Et nous avons toutes les raisons de chercher à lui plaire, à ne rien faire pour lui déplaire. Pas parce qu'il érige des commandements, mais parce qu'il nous conseille des voies de bonheur. Elles sont souvent exigeantes et on les refuse. Mais quand on s'y engage, on y trouve le bonheur. On l'a vu hier avec Saint Charbel Maclouf. Il est allé jusqu'au bout, ce saint libanais. Or, toutes les inspirations, tous les déploiements de l'activité de Sainte Marguerite Bourgeois, comme autant de greffes spirituelles, pourrait-on dire, ont trouvé dans le cœur de Dieu une sève nourrissante. Cette dévotion filiale à Dieu le Père procédait, il n'y a pas à en douter, de sa confiance absolue en Dieu. C'était presque téméraire, d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand le 18 mai 1765, alors que le feu consume tous ses travaux, son hôpital, il ne reste plus rien. Et qu'est-ce qu'elle dit à ses sœurs, aux malades? Mais Sainte Marguerite Bourgeois, ici, à Montréal, dans le Vieux-Montréal, ici même, elle dit, mes enfants, nous allons réciter le Te Deum, c'est-à-dire un chant d'acclamation à Dieu. Nous allons le réciter à genoux pour remercier Dieu. Et elle dit, pour remercier Dieu, c'est assez curieux cette fois, de la croix qu'il vient de nous envoyer. J'ai peine à croire que Dieu avait mis le feu à son hôpital, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire de faire face aux réalités, aux difficultés, et d'y trouver toujours la certitude que Jésus nous a transmise, à savoir que Dieu nous aime, que Dieu nous aime d'un amour total. C'est ça le message de Jésus-Christ. Nous allons toujours à la recherche de Jésus-Christ, puisque c'est Noël bientôt. Et nous allons passer à travers maintenant la vie étrange et mystérieuse d'Hélène Boulay, la femme de Samuel de Champlain. Vous direz, pourquoi parler d'elle? C'est que beaucoup des événements qui ont marqué sa vie tournent autour de Noël. C'est assez surprenant. D'ailleurs, son mari, Samuel de Champlain, j'ai pas à vous expliquer qui c'est, n'est-ce pas? Eh bien, est mort un jour de Noël. Mais qui était cette Hélène Boulay? Cet enfant qu'on a donné en mariage à Samuel de Champlain. On retrouve ça dans un contrat qui a été signé le 27 décembre, voyez-vous, 27 décembre 1610 à Paris. Son père, Nicolas Boulay, mais son épouse, Marguerite Alix, et qui constate que leur fille Hélène est prête à épouser Samuel de Champlain, donne leur accord. Il est écrit dans le texte, donne leur accord au mariage futur des dits Samuel de Champlain et Hélène Boulay qui ont promis et promettent de prendre l'un de l'autre par nom et loi du mariage, dedans le plus bref temps ou délai, si on veut, que faire se pourra. Mais pourquoi ça, dans le plus bref délai, là? C'est que la mariée très jeune, savez-vous quel âge elle avait avec 12 ans? Alors Champlain aurait alors une trentaine d'années. Mais parce qu'il épouse une enfant, on convient de retarder la consommation du mariage. D'ailleurs, l'Église ne permettait pas de mariage entre une enfant de 12 ans et un homme de 30 ans. C'est évident. Mais ne nous étonnons pas trop de cet âge très très jeune. Vous savez, moi, ma grand-mère maternelle s'est mariée à 16 ans à peine. Et c'est pas par obligation. Et alors, on dit que il ne fera et effectuera qu'après 2 ans ce mariage, fini et accompli. Parce que vraiment, il fallait attendre pour consommer ce mariage. Et les fiançailles ont lieu le 29 décembre, voyez-vous, 2 jours après la signature du contrat, en 1610. Et le mariage est même célébré le lendemain, le 30 décembre, à l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris, selon les rites de l'Église catholique. Et malgré que la mariée et sa famille appartiennent à la religion protestante, ce sont des calvinistes, eh bien, c'est pas un obstacle à l'union de ce couple protestante et un catholique. La dot, ou la dot si vous préférez, le montant, n'est-ce pas, qui est prévu au contrat, est de 6000 livres. C'est une somme assez énorme. Et à cause de cette somme élevée, bien, on a prétendu que le mariage de Samuel de Champlain n'était dicté finalement que parce qu'il voulait mettre la main sur ses 6000 livres. C'est faux, absolument faux. C'est une façon de diminuer notre histoire. Et ce n'est pas vrai qu'il n'y avait aucun sentiment entre Hélène et Samuel de Champlain. Pas du tout. Cette certitude s'appuie, de toute façon, sur une quittance de 4500 livres qui est signée par Champlain le jour des fiançailles. Ça veut dire qu'il n'accepte pas de recevoir 4500 livres sur les 6000 livres. Mais une phrase tirée du testament de la mère de Hélène Boulay, Marguerite Alix, laisse entendre, par contre, que Champlain a signé la quittance pour décharger les Boulay de cette dette. Néanmoins, écrit-elle, le 13 septembre 1625, la vérité est que les 10 sieurs et demoiselles de Champlain n'en ont reçu que la somme de 1500 livres seulement, ce qui, celle testatrice, déclare et reconnaît pour la décharge de sa conscience. Et alors, les débuts qui entourent les premières années de ce mariage sont plutôt mal connus, mais on sait que Champlain est parvenu à amener à la foi catholique sa jeune femme. Elle a abjuré le protestantisme, lit-on, d'ailleurs, dans les chroniques de l'ordre des Ursulines, Pourquoi les Ursulines, vous allez voir, elle est entrée chez les Ursulines. C'est assez surprenant. Qui sait que Hélène de Champlain, il y a le restaurant Hélène de Champlain à Montréal, qui sait que Hélène de Champlain est devenue Ursuline? C'est rare, hein? On sait pas ça. Donc, elle est devenue catholique, puis elle a fait profession de foi catholique ouvertement. Et depuis 7 ans, on dit qu'elle a aimé davantage son mari, non seulement avec tendresse, comme auparavant, mais même avec reconnaissance. Hélène Boulay s'est donc convertie vers 1613, vers l'âge de 15 ans, quoi. Elle n'est pas encore acquise au plaisir du mariage, évidemment, puisqu'en 1614, ses parents se voient obligés de la déshériter. Pourquoi? Parce que les motifs sont nombreux. C'est assez spécial, hein? On dit qu'elle a abreuvé ses parents d'injures, de contradictions, l'année même de sa conversion. C'est assez curieux. Comme si elle s'était opposée à son père et sa mère qui étaient protestants. Et ce sont des propos scandaleux. Une enfant de 15 ans qui est un peu surexcitée, qui manque d'équilibre au fond, peut-être, vis-à-vis ses parents. Mais les questions religieuses à l'époque avaient tellement d'importance qu'il faut peut-être essayer de comprendre. Mais ce n'est pas facile. De toute façon, elle ne s'arrête pas là. L'année suivante, le 4 janvier, elle a toujours une quinzaine d'années, mais elle a fait même une fugue. Et les parents notent l'événement avec précision, mais elle n'a rien fait de grave durant sa fugue, et ses parents le lui ont complètement pardonné, car ils ont vu que c'était des bobards qu'on avait rencontrés sur elle. Et le 9 janvier, bien qu'elle était introuvable, on s'est rendu compte qu'elle ne s'était pas mal conduite. Et de toute façon, son mari va mourir beaucoup plus tard, le 25 décembre 1635. Et là, qu'est-ce qui lui arrive, après un Noël aussi triste? Eh bien, elle entre au noviciat des Ursulines 10 ans plus tard, en 1645, sous le nom de sœur Hélène, elle garde son prénom, de Saint-Augustin. Donc, Hélène Boulay, qui est entrée chez les Ursulines, a fondé une maison d'enseignement. Elle est entrée en France, hein, c'est pas à Québec qu'elle est entrée, mais bien en France, à Paris. Elle a fondé une maison d'enseignement, car les Ursulines sont des sœurs cloîtrées mais enseignantes à cette époque. Donc elle a fondé ça à Meaux, où était évêque Bossuet, n'est-ce pas? Et où elle est morte le 20 décembre, oui, le 20 décembre 1654. Et nous allons maintenant consacrer tout le restant de l'émission à Jésus-Christ. Nous avons vu de ses témoins, sainte Marguerite Dioville, qui a vécu à Montréal, Hélène Boulay, qui est venue ici, Hélène de Champlain, quoi, qui est entrée chez les religieuses après une vie difficile, et qui a compris qui était Jésus-Christ, qui s'est donné complètement à lui. Mais qui est ce Jésus-Christ? A-t-il vraiment existé? Il y a des gens qui mettent son existence en doute, on voit ça parfois. Ce qui est absolument invraisemblable, hein? On voit même dans des livres, comme le livre de Horry, Le Christ et Jésus, publié en 1968, « Jésus-Christ, dit-il, appartient au monde des idées. L'histoire ne lui a pas ouvert sa porte parce qu'il n'y a jamais frappé. » Mais c'est absolument invraisemblable. On a toutes les preuves de son existence. D'ailleurs, si on se réfère à ce grand théologien protestant qui est Rudolf Bultmann, qui est loin d'être un des croyants chrétiens les plus traditionnels, au contraire, hein, Bultmann, c'est vraiment quelqu'un qui a rué dans les brancards, hein. Eh bien, il dit même que la foi en la résurrection, telle qu'elle est décrite dans les évangiles, c'est pour lui un obstacle presque insurmontable pour remonter à Jésus. Mais il écrit quand même, dans son livre intitulé simplement « Jésus », qu'il avait publié en allemand en 1926 et qui n'a été traduit en français, chose étrange, qu'en 1968, la même année où Horry a publié son livre, que je trouve insensé, « Le Christ et Jésus ». Mais voici la citation de Bultmann, c'est très important, écoutez bien ça. « Le fait de douter que Jésus ait vraiment existé n'a aucun fondement. » Il ne mérite même pas d'être réfuté. Il est indiscutable que Jésus est à l'origine du mouvement historique dont la communauté palestinienne primitive représente le premier stade tangible. cette communauté palestinienne primitive, ce sont évidemment les premiers juifs chrétiens réunis aux étrangers non-juifs qui partagent petit à petit leur foi. Cette communauté palestinienne qui fonde l'Église. Et Bultmann ajoute, mais c'est une toute autre question de savoir dans quelle mesure la communauté a su conserver fidèlement et objectivement l'image qu'elle avait de lui et de sa prédication. Cet état de choses est plutôt déprimant et accablant pour qui s'intéresserait avant tout à la personnalité de Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas de description précise de Jésus. Mais toutefois, de plus en plus, les savants découvrent, en ce 20e siècle, le véritable portrait de Jésus. Et nous l'avons. Et j'y crois personnellement pas à cause de ma foi, mais à cause des études scientifiques que j'ai essayé de faire en compagnie d'une cinquantaine de volumes, c'est-à-dire qu'on trouve le portrait de Jésus sur le Saint-Suaire de Turin, le linceul de Turin, le linceul dans lequel le Christ est ressuscité, sur lequel il a laissé les traces de son corps en négatif. Aucun savant ne peut expliquer ce mystère. Il est évident que c'est un miracle grandiose qui nous permet de voir non seulement les traits de sa figure, mais aussi son corps de face et de dos, et ainsi de juger non seulement de sa grandeur, mais de toute sa physionomie. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle, et nous allons essayer de voir qui était ce Jésus que nous allons fêter dimanche soir, le 24 au soir. Déjà, on commence à célébrer. Car vous savez que le jour liturgique, c'est-à-dire le jour religieux dans l'Église, commence à la tombée du jour, justement. Quand la nuit commence, on calcule que le jour suivant est déjà commencé. C'est pour ça que l'on peut célébrer Noël la veille, dès 7, 8, 9 heures. Et ce Jésus, on en trouve des traces dans les évangiles d'une façon absolument magnifique. On dit bien dans Saint-Luc, « Aujourd'hui, un Sauveur vous est né, qui est le Christ, Seigneur. » Un Sauveur, c'est-à-dire un libérateur, quelqu'un qui vient nous libérer à l'intérieur. Nous sommes déjà des créatures libres. Dieu nous a créés libres. Libres de choisir entre le bien et le mal. Libres de reconnaître que Dieu existe ou non. Libres parce que capables d'aimer. Dieu nous a créés à son image. Imago Dei, comme on dit en latin. À l'image de Dieu. Nous sommes des images de Dieu. Et Dieu est amour. Ça nous a été révélé. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Dieu est amour, dit Saint Jean. Et s'il est amour, et si nous sommes à son image, nous devons être capables d'aimer, c'est pour ça que nous sommes créés libres. Mais, comme c'est difficile d'aimer, et Jésus vient pour nous libérer davantage, c'est-à-dire faire que notre liberté soit exercée comme des êtres debout, des êtres humains vraiment debout, comme ressuscités. Et c'est ainsi qu'un Sauveur nous est né. Et on dit dans Saint Jean, dans le premier chapitre, cette parole merveilleuse de la bouche d'un apôtre, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire le Christ. C'est celui que Dieu envoie. » Et il demande, Jésus, dans Matthieu, au chapitre 16, « Mais pour vous, qui suis-je ?» Alors, c'est Pierre qui répond, il a la réponse totale. Hein? « Lui, le premier pape, selon la foi catholique, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint. Oint, ça veut dire celui qui a reçu une onction. Qu'est-ce que ça veut dire encore? Ça veut dire qu'il a reçu, pourrait-on dire, sur son front, une huile si pure. C'est comme ça que les prêtres font des onctions aux malades avec de l'huile, c'est de l'huile d'olive, hein? Mais de l'huile consacrée. Car l'huile d'olive est parfaitement pure. Je lisais un article l'autre jour dans le journal sur la pureté extraordinaire de ce produit de la création qu'est l'huile d'olive, qui est le symbole de la grâce qui vient de Dieu, qui est le symbole de la présence de Dieu, qui est le symbole finalement de l'Esprit-Saint lui-même. Et il est donc le Christ, le Oint. Il est le Fils du Dieu vivant, mais le Fils avec un F majuscule. C'est le Fils éternel, le Messie, celui qu'on nomme Christ, dit Jésus, « Je le suis, moi qui te parle ». Et quand on lui pose la question, cette fois-ci dans Saint-Marc, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Et Jésus dit, « Je le suis. » De quel... Comment ose-t-il dire de telles choses, lui qui est un juif ? Il va même jusqu'à dire, et c'est dans Saint-Jean, cette parole connue par tout le monde, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et il ajoute, « Nul ne va au Père que par moi. » C'est très, 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 très audacieux que pour un homme que de dire des paroles comme ça. Car ça ne peut pas être un homme, à mon avis, qui dit des paroles comme ça. Il faut être plus qu'un homme. « Je suis le chemin. » « Je suis la vérité. » Comment un homme peut-il dire « Je suis la vérité » ? Il dit « Je suis la vie. » À moins que Jean ait imaginé des paroles comme ça, et qu'il les ait écrites pour les mettre dans la bouche de Jésus. Mais si Jean les a imaginées, pourquoi met-il des paroles aussi blasphématoires, aussi folles même, j'oserais dire, aussi étrangement mystérieuse? Pourquoi? Pour ridiculiser Jésus? Mais il ne veut pas le ridiculiser, il veut rapporter vraiment les paroles. Et les évangélistes vont jusqu'à rapporter certaines paroles ou certains événements qui sont très étranges. Et il faut les tenir, les deux bouts de la chaîne, parce que Jésus dit aussi une autre parole mystérieuse. Il dit qu'il ne sait pas le jour et l'heure de la fin du monde, mais seul le Père sait. Comment se fait-il? C'est qu'il parle en tant qu'homme à ce moment-là. Il ne parle pas en tant que Dieu. C'est très spécial et pas facile. Mais les paroles les plus intéressantes de Jésus, en dehors de celle où il affirme vraiment son caractère de Dieu, qu'il est l'image du Dieu invisible, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, ou resplendissement de la gloire de Dieu, effigie de sa substance, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mais c'est lui-même qui le dit, « Qui m'a vu, a vu le Père hein? ». On voit ça dans saint Jean. Et c'est pour ça qu'il affirme bien, quand on lui dit « Tu es donc le Fils de Dieu », qu'il répond « Je le suis ». Et qu'on lui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Il ajoute les paroles les plus étonnantes de toute l'histoire de l'humanité, à mon avis. « Si vous ne croyez pas que je suis ». Il s'applique à lui-même les paroles que l'on retrouve dans l'Exode, au chapitre 3, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu se révèle aux Juifs comme étant « Je suis ». Il est celui qui est. Et Jésus s'applique à lui-même ces mêmes paroles. « Si vous ne croyez pas que je suis ». C'est absolument fantastique. Et dans l'Évangile de saint Jean encore, encore au même chapitre 3, verset plus loin, il dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. » Et il dit, quelques versets plus loin, toujours au chapitre 8 de saint Jean, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Ce sont les paroles les plus audacieuses et plus blasphématoires aux yeux, aux oreilles d'un juif. Et saint Jean les écrit. Il les écrit, on le sait, à la fin du premier siècle, longtemps après la mort de Jésus. Parce qu'il était jeune, un jeune disciple, il écrit son évangile assez tardivement. D'ailleurs, son évangile est très différent de celui des trois autres, de ce qu'on appelle les synoptiques. Matthieu, Marc et Luc. Mais il dit bien, dans Saint Jean encore au même chapitre 8, « Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui le Père qui m'a envoyé, qui m'accueille, dit-il dans Matthieu, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Et c'est là que l'on voit, comme je vous disais tout à l'heure en parlant de Sainte Marguerite d'Youville, « Qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » Elle a accueilli, elle, le Père, Dieu le Père. Et ça a fait d'elle une des femmes les plus remarquables de toute notre histoire du Québec. Jésus dit aussi, dans Saint Jean encore, « Qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et nous sommes comme lui envoyés. Le savons-nous que nous sommes vraiment envoyés par Jésus? Comme le Père a envoyé Jésus lui-même. Et c'est une charge énorme, énorme. C'est une responsabilité immense, immense. Et c'est pourquoi nous devons, en approchant de Noël, apprendre vraiment à vivre de Jésus. C'est pas facile. Comment faire pour imiter Marguerite d'Youville? Comment faire? Si ce n'est chaque jour en priant comme elle, en vivant comme elle, très près de Jésus-Christ. Un des beaux textes sur lesquels on revient au temps Noël, c'est ce texte tiré de l'Évangile de Saint Matthieu, qui cite Isaïe, n'est-ce pas, Isaïe au chapitre 7, tout au début de l'Évangile de Saint Matthieu, et on lit ça au temps Noël, « La Vierge enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel. » Nom qui se traduit « Dieu avec nous ». Et c'est bien ça qu'est Jésus-Christ. C'est Dieu avec nous. Il est toujours avec nous. Il est présent en nous. Celui qui croit en moi, mon Père et moi, nous viendrons en lui et nous y ferons notre demeure. Il nous habite. Et c'est Jean-Paul II, dans une audience générale qu'il a donnée en 1988, au mois d'août, qui déclare « Jésus, et c'est très beau, hein, Jésus est celui qui opère la libération de l'homme, et de la femme évidemment, au moyen de la vérité de son évangile. » C'est pourquoi il faut vraiment lire l'évangile. Il faut être attentif quand on est à la messe pour lire et comprendre les textes. Jean-Paul II ajoute « Le Christ libère l'homme de l'esclavage du péché, lui donne une nouvelle vie. » C'est ça qu'il est venu faire Jésus sur la terre, c'est ce qu'il fait toujours. Et Jean-Paul II ajoute « Selon quels critères réaliser en nous cet homme nouveau qui demande notre adhésion libre ? » Eh bien, dans sa figure historique, Jésus-Christ a pour cet homme nouveau la signification d'un modèle parfait. Il est notre modèle parfait. C'est-à-dire de l'idéal, c'est notre idéal. Celui qui, ajoute Jean-Paul II, dans sa propre humanité, était la parfaite image du Dieu invisible, devient, par le fait de sa vie terrestre, par le fait de tout ce qu'il fit et enseigna, il devient, par-dessus tout, un modèle visible pour les hommes. Le modèle le plus parfait. Mais on peut se demander comment faire pour reproduire en nous ce modèle parfait. Hein? C'est un modèle difficile, et selon les évangiles, il faut prendre sa croix. Bon, tu sais que c'est pas facile. Hein? Et il faut prendre sa croix et suivre Jésus, c'est ce que je dis Jésus. Hein? Et Jean-Paul II explique ça en disant, nous entrons ici dans le cadre du thème de l'imitation du Christ qui est clairement présent dans les textes des évangiles. Et dans d'autres écrits des apôtres, même si le mot « imitation » n'apparaît pas dans les évangiles. Mais Jésus exhorte ses disciples à le suivre. Et Jean-Paul II cite le texte de Matthieu, au chapitre 16. « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Oh. Ça fait fuir tout le monde et ça me fait fuir moi-même, parce que c'est pas facile. Mais il faut bien y revenir à ce texte. Parce que selon saint Paul, accueillir la croix de Dieu, la parole de Dieu avec joie, c'est l'accueillir même dans la croix. C'est saint Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens, c'est très beau ça, c'est seulement dans saint Paul, dit Jean-Paul II, que nous trouvons ce mot. Voici le mot de saint Paul. « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Il y a une belle prétention, ce saint Paul. Il y a une fierté là-dedans, un sans-gêne qui est vraiment émouvant. « Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. » Ça prend beaucoup d'humilité pour oser dire des choses pareilles. Ailleurs, d'ailleurs, il dit, et c'est très important, « Et vous, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant accueilli la parole avec la joie de l'Esprit-Saint, fût-ce au milieu de grands tourments. » Fût-ce au milieu de grands tourments. On l'a vu tout à l'heure avec sainte Marguerite d'Youville. Son hôpital brûle et elle est dans la joie. Elle le dit bien. Que c'est dans la joie qu'il faut chanter un Te Deum, c'est-à-dire un chant d'acclamation à Dieu. C'est retourner toute notre vie à l'envers, au fond, pour trouver la liberté. C'est très, très, très étrange, le christianisme, pour ça. La liberté est dans l'absurde, est dans la folie. Et Jean-Paul II dit bien... Mais il faut observer que le mot « imitation » n'est pas ici la chose la plus importante. L'essentiel est le fait qui lui est sous-jacent. Qu'est-ce que c'est, dit Jean-Paul II? C'est-à-dire que la vie entière est l'œuvre du Christ, accomplie par amour pour ses frères, reste un modèle durable et idéal. Il induit donc, puis il exhorte, non seulement à connaître, mais aussi et surtout à imiter. Jésus lui-même, du reste, dit au Cénacle, après avoir levé les pieds aux apôtres, « Je vous ai donné l'exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Et Jean-Paul II continue en disant ces merveilleuses choses. « La parole de Jésus ne se réfère pas seulement au geste de laver les pieds, mais à travers un tel geste, à toute sa vie, considéré comme un humble service. Jésus s'est montré comme un serviteur. Et c'est ça qu'on doit être. C'est très, 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 très difficile. Jean-Paul II ajoute, « Chaque disciple est invité à suivre les traces du Fils de l'homme, lequel n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et c'est justement à la lumière de cette vie, de cet amour, de cette pauvreté, que l'imitation du Christ devient une exigence pour tous ses disciples et pour ceux qui le suivent. Elle devient, dans un certain sens, la structure portante de tout l'éthos évangélique chrétien. C'est exigeant. C'est exigeant, mais c'est là qu'est le bonheur. C'est ça qui est étrange. Les gens les plus heureux que j'ai rencontrés, moi, dans ma vie, c'est pas ceux qui s'adonnent à leur sens. C'est ceux qui suivent l'évangile de fond en comble. Mais ils sont rares. C'est très difficile. Mais ça se fait. Ça se fait pas par soi-même, ça se fait par Jésus-Christ lui-même, par son esprit. C'est ce qu'ils disent, ceux qui le suivent. Mais comment passer donc de l'extérieur à l'intérieur, nous dit Jean-Paul II, nous conformer à Jésus, non seulement dans l'exécution, mais dans l'intention? Comment faire la volonté du Christ en allant jusqu'au bout des conséquences que cela signifie dans notre vie, Un unique secret, c'est l'amour de Dieu, confiant et abandonné. C'est en cela précisément que consiste cette libération pour la vie nouvelle. Le Christ n'a pas seulement transmis à l'humanité une espèce de théorie, une magnifique théorie, mais il a révélé dans quel sens et dans quelle direction doit s'accomplir la transformation du vieil homme, l'homme du péché, en homme nouveau. Et cette transformation continue le pape. Cette transformation existentielle et par conséquent morale doit arriver à rendre l'homme et la femme conformes à ce modèle entièrement original selon lequel il a été créé. C'est seulement à un être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu que peuvent s'adresser les paroles que nous lisons dans la lettre aux Éphésiens de saint Paul. Cherchez à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés. Et suivez la voie de l'amour. à l'exemple du Christ, qui vous a aimé, s'est livré pour nous, s'offrant à Dieu. Alors c'est dans ce fait, dit Jean-Paul II, que puisent leur force et leur efficacité des exhortations comme celle de saint Paul aux Philippiens, qui est très belle ce que saint Paul dit. Il dit « Par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante, eh bien mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. » En somme, il fait appel à tous les chrétiens pour qu'ils s'entendent, qu'ils aient des sentiments harmonieux. Et il ajoute, saint Paul, « N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun, par l'humilité, estime les autres supérieurs à soi, et ne cherchez pas chacun vos propres intérêts. Ne cherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. » Et c'est beau au temps de Noël, les gens songent de plus en plus aux pauvres, de plus en plus à aider les plus pauvres, mais il faudrait que ça soit 24 heures par jour, 365 ou 366 jours par année. Saint Paul dit, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Il dit, « Le Christ, en fait, prenant la condition d'esclave, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. » Parce que la croix est le mystère de l'amour. Quand vous voyez une croix, vous voyez l'amour de Dieu. C'est l'amour qui s'exprime en Jésus-Christ, l'amour du Père pour chacun d'entre nous. Il va jusqu'au bout, il affirme qu'il est Dieu. Je vous ai lu les textes tout à l'heure. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce sont des blasphèmes tels que ça mérite la mort aux yeux des Juifs, et c'est normal. On ne peut pas en vouloir aux Juifs. Mais il ajoute aussi que deux ou trois soient réunis en mon nom, c'est-à-dire être réuni au nom de Jésus, c'est être réuni dans l'amour, dans la prière, dans la tendresse, dans le respect réciproque. Eh bien, il dit, je suis là au milieu d'eux. Il me semble qu'il n'y a que Dieu pour dire des paroles comme ça. Comme quand il dit, je suis la lumière du monde. Un homme peut-il dire des telles choses? Vous m'appelez maître? Alors il répond, bien humblement, ce Jésus, « Je le suis. » Il faut être très humble pour dire ça. Il faut être Dieu presque. Mais d'autres paroles disent bien qu'il est Dieu. « Le Messie, je le suis, moi qui te parle, » dit Jésus dans saint Jean chapitre 4. Il est aussi le médiateur, hein? Il dit, la loi fut donnée par l'intermédiaire de Moïse, la loi que suivent les Juifs. Alors il ajoute, la grâce et la vérité nous sont venues par Jésus-Christ, c'est dans saint Jean, au chapitre 1. Mais il y a des belles paroles qui tournent autour de l'Eucharistie quand il dit, je suis le pain de vie. Il est lui-même le pain de vie, sa parole est le pain de vie. L'Évangile, c'est un pain de vie, mais l'hostie aussi. Il dit, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Vous savez, quand on lit ça, on se dit, Salvador Dali, qui était un excentrique, le plus excentrique de ce siècle, aurait jamais imaginé des paroles aussi fantastiques. Et Jésus ajoute, qui mangera ce pain vivra à jamais. Un homme sensé, intelligent, normal, peut-il dire des choses pareilles? Non. Il faut que ce soit Dieu. Hein? Moi, c'est mon avis, en tous les cas. Je le donne pour ce que ça vaut. Dans saint Jean, on peut lire aussi ces paroles de Jésus, « Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Et quand il consacre le jeudi son soir, ce que les prêtres font et qu'on regarde faire sans trop s'ébahir et s'émerveiller, tellement on est habitué, on s'en rend même plus compte. Jésus prit du pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » C'est l'absurde poussé jusqu'au bout. Hein. Ça n'a pas de sens. C'est insensé. Pourquoi les évangélistes, Matthieu, écrit-il ça au chapitre 26? Il dit, Jésus, faites ceci en mémoire de moi, et on le fait depuis 2000 ans. D'où vient ce pouvoir de pouvoir croire à ça, d'ailleurs, si ce n'est une grâce? C'est une grâce, c'est un don. Croire que Dieu se donne à nous sous les espèces du pain et du vin. Mais il le dit, hein? Ma chair pour la vie du monde. Il est un bon pasteur, il le dit aussi. Il dit tellement de choses merveilleuses que l'on est ébahi devant tout ça. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité, c'est dans Saint-Luc, chapitre 24. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Il est en nous. Et nous allons fêter cette naissance dans quelques jours, et je crois qu'il n'y a qu'une seule façon de la fêter. C'est en célébrant vraiment dans une église et en chantant avec foi et en communiant avec foi. C'est ça que nous faisons à Noël.